Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 1er. La première, donc, avait aussi des ordonnances pour le culte et le sanctuaire, un sanctuaire terrestre, car un tabernacle fut construit, le premier, qui est appelé saint, dans lequel était le chandelier et la table et la proposition des pains. Et après le second voile, un tabernacle qui est appelé Saint des Saints, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la manne, et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de l'Alliance, et au-dessus de l'arche, des chérubins de gloire en brasons de propitiatoire, sur quoi nous n'avons pas à parler dans ce moment en détail. Verset 11e. Christ étant venu sous bras sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de boucs et de taureaux et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Chapitre 16 du Lévitique. Nous lirons depuis le verset 11. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même, et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Et il égorgera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même. Puis il prendra plein un encensoir de charbon de feu de dessus l'autel qui est devant l'Éternel, et plein ses paumes d'encens de drogues odoriférantes pulvérisées, et il les apportera au-dedans du voile. Et il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel, pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, afin qu'il ne meure pas. Et il prendra du sang du taureau, et il en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, et il fera aspersion du sang avec son doigt, sept fois, devant le propitiatoire. Simplement ces quelques versets. Il y a dans l'Écriture des détails auxquels il vaut la peine de prendre garde pour notre édification et pour notre enrichissement spirituel. Et ma pensée est de parler du Seigneur à travers les types et les ombres de ce premier tabernacle, comme dit l'Écriture, mais surtout dans un détail qui a tant retenu les lecteurs sérieux de l'Écriture que j'aimerais insister sur ce détail. Peut-être à la simple lecture, quelques frères et sœurs ont remarqué ce détail. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui écrivait à des chrétiens juifs, savait fort bien que ces chrétiens juifs étaient instruits de ce qui se passait dans le temple à Jérusalem, puisque quand l'épître leur est parvenue, le temple existait encore et le service lévitique était encore rendu dans ce temple d'Hérode. Par conséquent, ces chrétiens étaient familiers avec ce que leur disait l'apôtre dans cet épître aux Hébreux. Il serait souhaitable que nous-mêmes soyons également familiers avec tout ce qui touche au tabernacle et à l'enseignement de ce tabernacle, spirituellement parlant. Or, dans les premiers versets du chapitre 9, l'apôtre, qui est très probablement l'apôtre Paul, rappelle à ces chrétiens hébreux qu'il y avait un lieu saint dans le tabernacle et un lieu très saint. Or, si nous lisons les passages de l'Exode qui nous présentent le tabernacle, nous savons très bien les objets qui se trouvaient dans le lieu saint. Il y avait trois objets principaux: le chandelier qui répandait sa lumière, la table d'or sur laquelle étaient les 12 pains de proposition, et l'autel des parfums qui était en or et qui se trouvait près de ce que l'auteur appelle ici le second voile. Disons en passant que ce second voile, il est facile d'en comprendre la signification, puisqu'il y avait un premier voile pour l'entrée du tabernacle et un second voile pour séparer le lieu saint du lieu très saint. Il est donc question ici du second voile, celui qui s'est déchiré lorsque le Seigneur a expiré et qui se trouvait précisément entre le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un objet, c'était l'arche de l'Alliance, avec les chérubins d'or qui regardaient le propitiatoire sur l'arche et qui étaient ainsi apaisés quant aux exigences de la justice divine. Ainsi donc, pour nous-mêmes qui lisons l'Ancien et le Nouveau Testament, nous sommes très bien renseignés sur ce lieu saint. Il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition, il y avait l'autel de l'encens. Et nous sommes également très bien renseignés sur le Saint des Saints, ou le lieu très saint, où il y avait l'Arche de l'Alliance. Mais voilà que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et c'est ce détail sur lequel j'aimerais insister, rappelant à ces chrétiens de Jérusalem et de la Judée en général ce qu'ils connaissaient de ce tabernacle et de ce temple, leur dit que dans le lieu saint, verset 2, un tabernacle fut construit, le premier qui est appelé saint, dans lequel était le chandelier et la table, et la proposition des pains, c'est-à-dire les pains qui étaient placés sur la table, et après le second voile, un tabernacle qui est appelé saint des saints, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance. Pourquoi l'auteur de l'Épître ne parle-t-il pas de l'autel de l'encens? Il eût été normal, en tout cas si nous avions écrit cet Épître, nous aurions dit, mais car un tabernacle fut construit, le premier qui est appelé saint, c'est le lieu saint donc, dans lequel était le chandelier, la table et la proposition des pains et l'autel de l'encens. Ça paraîtrait normal de présenter les objets tels qu'ils sont décrits dans l'Exode. Et ensuite, au verset 3, et après le second voile, un tabernacle qui est appelé saint des saints et l'arche de l'Alliance entièrement couverte d'or. Pourquoi donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne mentionne-t-il pas dans ce rappel des versets 2 et 3 l'autel des parfums et parle-t-il d'un objet qui est sans doute mentionné dans le livre de l'Exode mais qui ne fait pas partie de ce mobilier du tabernacle qui est l'encensoir d'or? Alors, on a voulu expliquer cela de mille et une façons, n'est-ce pas, en disant que, en disant l'encensoir, on signifiait l'autel d'or, que cet encensoir représentait l'autel d'or. Mais pourquoi alors l'auteur a-t-il situé cet encensoir d'or dans le Saint des Saints? Et il y a une pensée tellement belle pour le croyant qui s'appuie sur l'Écriture dans ce fait. C'est très beau cela. Parce que ce qui préoccupe l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas tant la signification exacte de tous ces objets présentés dans l'Ancien Testament d'une manière exacte aussi, mais ce qui le préoccupe, c'est que si autrefois Aaron, une fois par année, dans le 16 du Lévitique, le grand jour des expiations, entrait dans le Saint des Saints, Christ, pour nous, est entré dans les lieux saints et s'est assis, ayant obtenu une rédemption éternelle. Son glorieux repos après la coupe amère et la parfaite paix de ses chères brebis. Sans doute que l'auteur de l'Épître, qui connaissait admirablement l'Ancien Testament, était-il sensible à la beauté de cette journée des expiations quand le souverain sacrificateur, seulement une fois par année, entrait dans le lieu très saint et qu'il y apportait le sang du bouc qui avait été immolé et qu'il plaçait ce sang sur le propitiatoire et qu'à cause de ce sang pendant une année, Dieu supportait ce peuple qui si souvent était infidèle. Mais ce souverain sacrificateur qui entrait avec ce sang qu'il plaçait sur le propitiatoire et qui est une figure de Christ, qui est entré dans le ciel avec son propre sang et qui a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Ce sacrificateur n'avait pas que cela lorsqu'il entrait dans le lieu saint. Et ensuite dans le lieu très saint. Il avait le sang, sans doute, mais il avait l'encensoir. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux trouve plus important la mention de l'encensoir que la mention de l'autel des parfums. Sans doute, nous l'avons dit et nous le répétons, l'encensoir qui était donc un objet en or dans lequel on mettait des charbons ardents, et sur ces charbons de l'encens, et le nuage d'encens montait vers les tapis qui formaient le toit de ce Saint des Saints. Sans doute que cet encensoir d'or, par sa fonction même, nous parle de l'autel des parfums où l'on offrait l'encens, et que par conséquent cet objet représente l'autel des parfums, mais l'autel des parfums représenté dans le lieu très saint. C'est magnifique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne veut pas voir simplement l'autel des parfums dans le lieu saint. Il veut voir en quelque sorte l'objet qui représente cet autel des parfums, mais dans le lieu très saint. Et nous allons voir la signification de cela. Il y avait donc, d'après notre passage, qui fait allusion au chapitre 16 du Lévitique, nous n'avons lu que le paragraphe relatif à l'encensoir d'or, il y avait donc, au moment où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, deux choses significatives dans le lieu très saint. Il y avait, premièrement, l'arche de l'Alliance, et deuxièmement, l'encensoir d'or. Et non seulement Aaron tenait l'encensoir d'or, mais il tenait le sang avec lequel il allait asperger le propitiatoire, et Dieu allait voir ce sang, et il allait supporter le peuple à cause du sang. Et voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Le lieu très saint est donc la figure du ciel où le Seigneur est entré. Mais il y est entré avec son propre sang. Et devant Dieu, il y a le sang de Christ. Et ce sang de Christ placé devant Dieu qui exige à cause de sa justice est la parfaite paix de celui qui croit. Ne crains pas, crois seulement, dit le Seigneur. Ne crains pas, crois seulement. Et c'est peut-être l'une des plus belles choses que le réveil ait donné à l'Église de Christ. C'est cette certitude du salut éternel. Christ a obtenu une rédemption éternelle. Il est entré dans les lieux saints avec son propre sang. Et désormais, s'il y a des âmes tourmentées par la question du salut, et il y en a, il y en a. Si elle pouvait dire simplement ces âmes inquiètes pour la question du salut, mais ô Dieu qui est juste et qui a les yeux trop purs pour voir le mal, regarde le sang de Christ qui est placé là devant toi. Ce sang qui purifie de tout péché et qui nous rend juste devant Dieu est parfait à perpétuité. C'est pour cela que nous reprenons cette strophe de cantique, son glorieux repos après la coupe amère et la parfaite paix de ses chères brebis. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que le fait que le Seigneur est entré dans le repos avec son propre sang, que ce propre sang a été placé devant Dieu, que ce sang nous place à l'abri du jugement de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Et du Seigneur, l'assuré témoignage me gardera contre les grandes eaux. Et quand je paraîtrai devant Dieu avec ce qu'a été ma vie, eh bien, toujours, je pourrai dire, ma justice a été Christ. Et ma protection a été le sang de Christ, et mon salut est dans le sang de Christ versé. Christ est ma justice, je suis en paix, et rien ne peut troubler mon repos. Et c'est précisément ce que je disais il y a l'instant relativement à l'apport du réveil, c'est d'avoir donné à des chrétiens qui si souvent étaient dans la crainte de ne pas être agréés par Dieu, de leur avoir donné la conviction profonde fondée sur l'Écriture que la justice dont nous sommes revêtus est due au sang de Christ placé devant Dieu dans le ciel par l'entrée de notre souverain sacrificateur et qu'étant à l'abri de ce sang, nous sommes en paix avec Dieu et nous pénétrons dans les tabernacles éternels, la conscience au large, l'âme en paix, n'ayant rien à craindre d'une justice rétributive de Dieu. Nous savons que cette assurance du salut qui est notre joie et notre bonheur dans le Seigneur implique des responsabilités quant à la marche et que l'apôtre Paul le premier a vu ce que pouvait impliquer ce fait que nous étions à l'abri du sang en parlant de ceux qui abuse de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que, ayant la certitude du salut, je pourrais me dire, eh bien, tant pis si ma marche n'est pas ce qu'elle devrait être. C'est très grave, cela. C'est tourner la grâce de Dieu en dissolution. Plus un chrétien a le sentiment de son salut et de la valeur du sang de Christ, plus il conformera sa vie au signe du sang sous lequel il est placé. Et on a constaté ceci, que plus le chrétien a la certitude par l'Esprit Saint de son acceptation devant Dieu et de la valeur du sang de Christ, plus il sera soigneux dans sa marche. Car, comme le dit le Seigneur à Simon le pharisien dans sa maison, celui auquel il a été beaucoup pardonné, celui-là, il aimera beaucoup. C'est-à-dire que celui qui sait le prix du sang précieux de Christ
désirera marcher dans le respect de ce sang versé pour lui, qui marque sa séparation de lui-même avec le péché et avec le monde qui a rejeté le Seigneur. Mais il n'y a pas que le sang qui était apporté, et il y a cet encensoir qui, nous l'avons dit, représente l'autel de l'encens qui n'est pas mentionné dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que dans le grand jour des expiations, ce qui intéresse l'auteur de l'Épître, c'est la présence du Seigneur dans le lieu très saint. C'est cela qui est important. Ce ne sont pas les objets du tabernacle, mais c'est que Christ est dans le ciel. Et il est dans le ciel avec l'encensoir d'or. Nous avons parlé de cet encensoir d'or il y a un instant, mais ce qu'il y a d'intéressant à propos de l'encensoir, c'est que les charbons qui étaient mis dans l'encensoir étaient pris à l'autel d'airain qui était dans le parvis où l'on immolait les victimes. Donc, dans l'encensoir, il y avait le rappel de l'immolation de la victime sur l'autel dans le parvis. Et d'autre part, dans l'encensoir d'or, il y avait l'encens qui est un parfum qui se répandait dans le sein des saints. Et il y a ce beau passage, « Ton nom est un parfum répandu. » Alors, dans le sein des saints, Christ est entré. Mais il y est entré avec cet encensoir d'or, c'est-à-dire avec le souvenir des charbons ardents du jugement de Dieu sur l'autel des reins, et avec l'encens qui fumait sur l'autel d'or, les deux autels étant en quelque sorte conjoints dans l'encensoir d'or. Et que nous dit l'autel d'or où on offrait l'encens? C'est les perfections de Christ comme homme sur la terre qui se répandaient alors qu'il cheminait sur les sentiers de ce monde. Et il y a l'ordre. Nous arrivons à un sujet très profond et très sérieux, chers frères et sœurs. Il y a l'ordre qui est présenté dans le lieu très saint. Il y a d'abord l'encensoir d'or, et il y a ensuite l'arche où le sang allait être déposé. Et c'est l'ordre concernant Christ. Quand il est venu parmi les hommes, il y a eu d'abord sa vie, avec tous les parfums que cette vie a répandus à la gloire de Dieu. Et puis il y a eu ensuite son sang versé, il y a ensuite eu la propitiation pour les péchés. Et alors, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux est rempli de Christ, et il est rempli de cette présence de Christ dans le ciel, il ne peut pas s'arrêter à l'autel d'or. Il a besoin de parler de cet encensoir, où il y a les charbons du jugement de Dieu, et où il y a l'encens qui nous parle des perfections de Christ comme homme sur la terre. Et il y a le sang qui nous parle de sa mort. Et c'est cela qui remplit nos cœurs quand nous pensons au Seigneur. Tu t'es assis dans le saint lieu, mais s'étant assis dans le saint lieu, il y a le souvenir de tout ce qu'il a été comme homme sur la terre, c'est l'encens. C'est un parfum répandu que ce que Christ a manifesté comme homme sur la terre. Et puis il y a le sang versé. Il y a l'œuvre accomplie au calvaire, sur la terre également. Et tout cela est rappelé dans le ciel, dans le sein des saints, où Christ est entré. Il y a donc un ordre dans notre passage qui est en relation avec le lieu très saint, d'abord l'encensoir, ensuite l'arche de l'Alliance. Il y a un ordre quand Christ est venu, qui est un ordre divin et selon Dieu. Il y a d'abord Christ naissant dans ce monde et vivant dans ce monde et répandant les parfums de sa sainteté à la gloire de Dieu. Il y a ensuite un Christ immolé et un sang qui a coulé sur le calvaire. Et cet ordre est maintenu dans le ciel. Et quand nous pensons au Seigneur glorifié qui est assis sur le trône de Dieu, nous pensons aux perfections de ce qu'il a manifesté comme homme lorsqu'il cheminait sur les sentiers de ce monde. Quelle beauté que le Seigneur! Nous connaissons, n'est-ce pas, ce ce beau cantique que nous aimons à chanter, tu réunis dans ton être adorable tous les trésors de la divinité. C'est l'encens qui répand son parfum. Et puis voilà qu'il y a un autre ordre, il y a l'ordre de sa mort et de son sang versé. Et quand nous contemplons le Seigneur dans la gloire, nous avons ces deux choses. C'est un homme glorifié, c'est-à-dire que c'est un homme qui a répandu pendant sa vie d'homme sur la terre tous les trésors des perfections divines dans un homme, c'est l'encens. Et puis il y a un homme qui est comme un agneau immolé, dit l'apôtre Jean, c'est-à-dire quelqu'un qui est une victime sainte et qui a répandu son sang sur l'autel de Dieu. Et tout cela se trouve dans le ciel. Et tout cela se trouve dans le ciel et, chose frappante, lors de la transfiguration, lorsque Moïse et Élie voient le Seigneur qui est transformé en gloire, et qu'ils apparaissent en gloire à la droite et à la gauche du Seigneur, nous retrouvons les deux choses. Il est dit, n'est-ce pas, qu'ils virent que la face du Seigneur, dans Matthieu 17, elle est brillante comme le soleil. Dans les autres évangiles, il est dit brillante comme la lumière. C'est sa gloire comme fils de l'homme. Sa gloire comme fils de l'homme. Tous les caractères de Dieu qui ont été manifestés par cet homme sur la terre, sa sainteté, son amour, sa justice, tout a été manifesté par Christ sur la terre. Et puis ensuite, il est dit, lesquels parlaient de la mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'était encore à venir. Mais il y a ces deux choses. Il y a l'éclat de sa gloire et il y a l'annonce pour la transfiguration de sa mort. Et pour nous, il y a la présence d'un homme qui a été immolé dans le ciel. Et quand par la foi, nous devrions nous tenir comme les trois disciples sur la montagne du Tabor, quand par la foi, nous regardons le Seigneur dans le ciel, nous avons ces deux choses. Nous avons un homme, et nous pensons aux perfections qu'il a montrées sur la terre. Et nous avons un homme qui a été immolé, et nous pensons au sang versé. Et c'est ainsi que dans ce chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, par l'encensoir d'or, tout est en or, du reste, dans ce Saint des Saints, et par l'arche de l'Alliance sur laquelle se trouvait le propitiatoire, nous avons ces deux caractères fondamentaux de Christ, comme homme sur la terre, et conservé pour l'éternité dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le ciel, dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, j'espère que le sujet n'est pas trop ardu, trop difficile dans sa représentation typologique, mais j'aimerais encore dire une chose. Si l'encensoir d'or d'une part et l'arche de l'Alliance d'autre part nous figurent la parfaite humanité de Christ dans sa vie et la parfaite valeur de son sacrifice dans sa mort, l'encensoir est encore la figure d'une autre chose. C'est que comme l'encens monte vers Dieu dans le sanctuaire, ainsi l'encens figure la prière du sacrificateur dans l'intercession et dans l'adoration. Il y a ce passage que nous avons souvent cité, mais qui est si beau dans le psaume 141. Ma prière montera devant toi comme l'encens du soir. Ma prière, c'est le psalmiste qui dit cela, montera devant toi comme l'encens du soir. Et nous éprouvons dans la prière, simplement comme croyants, que ce soit dans une prière d'intercession qui monte vers Dieu, ou que ce soit dans une prière d'adoration, nous éprouvons cette communion avec Dieu qui est si douce à nos cœurs, et nous pouvons répéter avec le psalmiste, ma prière montera devant toi comme l'encens du soir. Mais, chers frères et sœurs, il y a autre chose. C'est que dans notre passage, l'encensoir d'or est tenu par le souverain sacrificateur. C'est donc la prière de Christ. La prière de Christ dans la gloire. Et cette prière de Christ dans la gloire revêt aussi ces deux aspects, l'aspect de l'intercession et l'aspect de l'adoration. Comme du reste, lorsqu'il était sur la terre, nous avons toujours ces deux aspects. Quand le Seigneur dit à Simon, j'ai prié pour toi, c'est l'intercession pour les siens. Mais quand, dans un mouvement de son cœur, dans le chapitre 10 de Luc, il dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, c'est une action de grâce, c'est l'adoration. Ces prières du Seigneur ont eu ces deux caractères quand il était homme sur la terre. Mais ce qu'il y a de magnifique dans cet encensoir d'or porté par le souverain sacrificateur dans le Saint des Saints, qui figure Christ étant entré dans la gloire, c'est que non seulement il y a ses perfections comme homme qui sont dans le ciel, non seulement il y a ses perfections comme victime qui a versé son sang, qui sont devant Dieu, mais il y a cette prière qui monte du Seigneur glorifié dans le ciel, actuellement pour les siens qui sont sur la terre. Avez-vous remarqué que dans cet épître aux Romains qui présente tous les grands principes de la relation de l'homme avec Dieu, avez-vous remarqué qu'il y a un seul verset qui nous parle de Christ dans la gloire? Un seul. C'est un verset au chapitre 8. Il est dit donc que le Seigneur s'est assis dans les lieux saints au chapitre 8. Je crois qu'il vaut la peine de lire cet admirable verset qui est le seul dans l'épître aux Romains en relation avec la situation des chrétiens de Rome. Au chapitre 8, c'est le verset 34. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité. Et voilà la seule mention dans toute l'épître, qui est aussi à la droite de Dieu. Il est entré dans les lieux saints, dans le lieu très saint, n'est-ce pas, pour reprendre l'expression de l'épître aux Hébreux, dans le Saint des Saints, qui est aussi à la droite de Dieu et qui aussi intercède pour nous, qui est ce qui nous séparera de l'amour du Christ. Alors, ma prière montera devant toi comme l'encens du soir. Voilà cet encensoir qui non seulement répand les perfections de l'humanité de Christ sur la terre, mais voilà un Christ glorifié dans le ciel qui, symboliquement, porte cet encensoir d'or, c'est-à-dire qu'il intercède pour les saints qui sont sur la terre et qui prie pour nous. Et si, alors qu'il était sur la terre, il pouvait dire à l'apôtre Pierre, j'ai prié pour toi, maintenant dans le ciel, il intercède pour nous. Et cela était d'autant plus sensible aux chrétiens de Rome qu'ils pouvaient peut-être, au fond de leur cœur, se demander jusqu'à quand le Seigneur les laisserait livrer aux bêtes féroces dans les cirques et au cou de leurs bourreaux, et pouvaient se demander si ce Seigneur dans lequel ils avaient cru de tout leur cœur, parce que Paul pouvait rendre grâce pour ces chrétiens de Rome, parce qu'ils étaient restés fidèles à la forme de doctrine dans laquelle ils avaient été instruits. Voilà un passage pour nous. Vous avez été obéissants dans la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Il ne leur a pas parlé à ces chrétiens de Rome d'idées qui pouvaient évoluer ou qui pouvaient être au goût du jour ou qui pouvaient être adaptées. Il leur dit, vous avez été obéissants à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Mais si ces chrétiens de Rome avaient été obéissants à la forme de doctrine dans laquelle ils ont été instruits, Il y a quelque chose de mystérieux, c'est que Dieu les a éprouvés au-delà de tout ce que l'on peut penser, puisque c'est eux qui ont subi les premiers assauts de la terrible persécution, ici dans notre épître de Néron, et il y en aura d'autres. Alors qu'est-ce qu'il leur dit, l'apôtre ? Il leur dit Christ qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu. Seul passage où il est question de la présence de Christ dans le Saint des Saints, qui aussi intercède pour nous. Il intercède pour les saints selon Dieu. Voilà le Seigneur glorifié cette fois, exerçant, après avoir montré sur la terre tous les trésors de la divinité, après avoir versé son sang précieux sur le calvaire, le voilà dans le ciel, ce cher Sauveur, intercédant pour les siens qui sont sur la terre, assis à la droite de Dieu, dans une gloire qui ne peut pas être complète pour lui tant que ses bien-aimés n'y sont pas. Dans cette gloire que Paul a considérée sur le chemin de Damas et lorsqu'il était en Arabie, où il a entendu des choses ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme de rappeler. Mais l'énergie de la foi dans cet homme lui faisait voir Christ, ce Christ qui a été homme, et qui est glorifié à la droite de Dieu. Et la contemplation de ce Christ dans la gloire lui a donné une telle énergie pour le service de ce Christ glorifié qu'il peut écrire à ses chrétiens de Rome dans ce seul verset « Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Il peut leur dire « Christ est dans la gloire, je l'y ai vu. J'ai été ravi au troisième siècle, si ce n'est dans le corps, je ne sais, si ce n'est dans le corps, je ne sais, Dieu le sait. Il ne sait pas dans quelles conditions il a vu Christ, mais il l'a vu dans la gloire. Et la contemplation de ce Christ dans le Saint des Saints, dans la gloire, que nous avons vu par l'Épître aux Hébreux avec ses perfections d'homme qui a été sur la terre et qui est dans le ciel, avec son propre sang qui a été répandu pour laver nos péchés, alors il le voit cette fois, l'apôtre, comme intercédant pour les saints. Intercédant pour les saints. Chrétien de Rome, qui allait affronter la tribulation et la persécution et les épreuves. Levez vos têtes. C'est comme s'il les incitait à considérer un Christ glorieux, un Christ qui priait pour eux et qui, revêtu de ses attributs glorieux et de cet encensoir d'or et de ce son précieux, était pour eux le garant de leur paix éternelle, de leur acceptation devant Dieu et de l'amour que Christ leur manifestait en dépit de ce qu'ils affrontaient et de ce qu'ils rencontraient. Oui, ton amour, toujours le même, sollicite mon faible cœur à jouir de l'éclat suprême de ces doux rayons de modèle. Cette contemplation par la foi d'un Christ glorieux, revêtu de ses perfections d'homme qu'il a été et de sacrifice qu'il a été, l'encens et le sang. Mais en même temps, la contemplation de ce Christ dont la prière monte devant Dieu comme l'encens du soir, était pour ces chrétiens de Rome comme le plus pur stimulant pour affronter les pires épreuves où ils allaient témoigner de leur foi. Et comme Tertullien devait le dire, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Jamais le christianisme n'a pris un tel essor, n'a accusé une telle propagation pour la gloire du Seigneur glorifié que par le sacrifice de la vie de ces chrétiens de Rome. Et nous comprenons alors maintenant la beauté de la présence de ce Christ glorifié pour le chrétien, parce que nous allons le rejoindre. Comme le dit l'apôtre aux Corinthiens, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. C'est Pierre qui dit cela. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela. Vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez. Pierre l'avait vu, il l'aimait. Mais quand il écrivait à ses chrétiens, aux juifs, dans les deux épîtres de Pierre, vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez.
mais vous vous réjouissez d'une gloire, vous vous réjouissez d'une joie glorieuse à la pensée que vous allez le voir face à face. Et c'est l'énergie dans la foi, c'est l'énergie par la foi dans le chrétien qui lui fait considérer cette part glorieuse qui est devant lui et qui est la source de sa joie. Vous vous réjouissez d'une joie glorieuse parce que vous allez voir celui que vous n'avez pas encore vu de vos yeux, mais que sur la terre vous avez aimé, que sur la terre vous avez servi. Pour les chrétiens de Rome, pour lequel sur la terre vous avez donné votre vie. Et celui-là, vous allez paraître devant lui dans la gloire éternelle. Chers frères et sœurs, j'avais à cœur ces quelques considérations sur la présence de l'encensoir et du sang de la victime dans le grand jour des propitiations, que nous puissions par la foi considérer le Seigneur et nous réjouir de cette joie glorieuse dont parle l'apôtre Pierre.